Ok, donc on va démarrer Bezrat Hashem, le Perek Memchet. Donc le chapitre 48, comme on n'est pas très nombreux aujourd'hui, chacun avait sa raison, donc on va bien élaborer le début du Perek Memchet tranquillement. Donc faire un petit rappel où on en est. À partir du Perek Memvav, à partir du chapitre 46, on a commencé à parler du concept de Kemaim Apanim Apanim Kenlev Adam L'Adam. De la reconnaissance qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. On a expliqué que le sentiment de reconnaissance est un sentiment naturel. C'est naturel, c'est normal que quand quelqu'un il me fait quelque chose de bien, il me fait un sourire, naturellement je lui renvoie un sourire. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça. Au contraire, il faut faire un effort pour ne pas lui rendre le sourire. Parce que Dieu a créé dans la nature des hommes que, naturellement, quand une personne t'envoie un sentiment, tu le renvoies. Si quelqu'un m'envoie un sentiment de haine, naturellement, je sais pas pourquoi, mais je vais sentir que j'ai quelque chose contre lui. C'est comme ça. Ça va dans les deux côtés. Donc, de la même manière, on a expliqué, si Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il nous aime, particulièrement, même si on est insensible, mais si on réfléchit au fait qu'il nous aime, on est obligé à un moment donné de nous aussi se mettre à aimer Akadosh Baruch Hu. Donc, à nous de réfléchir comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Le problème, c'est que c'est pas visible. Donc, on a donné l'exemple du roi qui avait pris, donc l'exemple qu'on a amené plusieurs fois, du roi qui va prendre quelqu'un qui est défavorisé et qui va l'amener dans son palais, qui va lui donner plus de kavod que le ministre. On a dit que cette personne-là qui est défavorisée, c'est sûr qu'à un certain moment, il va réaliser ce qui est en train de se passer et il va craquer. Il va dire merci au roi. Donc on a dit de la même manière, on doit être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'état où on était plus que défavorisés, il nous a fait sortir d'Égypte. Pas seulement il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné ce qu'il n'a pas donné même à ses anges, même à ses ministres. Il nous a donné la Torah. Après on a dit, on s'est focalisé la semaine dernière dans le chapitre 47, on a dit oui mais tout ça c'est bien beau, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. La sortie d'Égypte c'est bien beau, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. Comment moi aujourd'hui je sens que Dieu m'a fait quelque chose à moi? Ok, il a donné la Torah, ça fait 2000 ans.
3500.
Combien?
3500.
3000 ans.
3300,
ouais, un peu plus. Ouais, 3500 à peu près. C'était en 2049. D'accord? Donc ça fait longtemps. Ça ne me concerne pas. J'en ai rien à faire. Donc ça ne me dit rien. C'est là qu'on a expliqué dans le chapitre 47. Chapitre 47, on a expliqué qu'en vérité, on vit quotidiennement le concept de la sortie d'Égypte. Comment on vit la sortie d'Égypte quotidiennement? Si on réfléchit comment Akadosh Baruch Hu nous donne la chance par ses mitzvot, par le Shabbat, par toutes les mitzvot, il nous donne la chance de quitter le matériel. On va prendre un paysan, un non-juif, qui toute sa vie, il a vécu comme un paysan. Je vais lui dire, maintenant, aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va quitter le matériel. On va vivre spirituellement aujourd'hui. Il va prendre pour un fou. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire quitter le matériel pour aller vers le spirituel. Ça veut dire quoi, quitter le matériel? Moi, je connais mon travail, je connais ma femme, je connais mes enfants, je connais mon champ, je connais mes bêtises, c'est tout ce que je connais. Ça veut dire quoi, quitter le matériel? Et Kadosh Baruch Hu nous a donné une chance extraordinaire que chaque juif, tout le monde, même un juif qui n'est pas pratiquant, mais il sait que quand il va accomplir une mitzvah, il va sentir comment la mitzvah le propulse. Comment la mitzvah, par exemple, même une mitzvah avant, quand je vais acheter un loulav, je mets des tefilines, si on met du cœur à la mitzvah elle peut nous propulser. C'est-à-dire qu'on peut, ça s'appelle la sortie d'Égypte. On a dit c'est quoi l'Égypte? L'Égypte c'est les mêmes mots que Mitzrayim, c'est les mêmes mots que Metzarim. Metzarim en hébreu ça veut dire quoi?
Un emprisonnement.
Sortir de prison. Donc en d'autres termes, si aujourd'hui on veut réfléchir comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il faut réfléchir comment Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance de sortir de l'emprisonnement de notre corps grâce au mitzvot. Bon. Mais on sent qu'on a encore besoin de développer le sujet parce que bon, le concept on l'a compris. Le concept on l'a compris, c'est que il faut réfléchir au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose alors qu'il ne le devait pas. Comme ça, en contrepartie, nous, on sera reconnaissants envers lui. C'est ça le concept. Bon, donc qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la Torah. Il nous a fait sortir d'Égypte. Bon, c'est passé il y a 3500 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a donné? Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu me donne? Aujourd'hui, Dieu me donne la possibilité de me propulser vers le spirituel. Chose qu'il ne donne pas aux autres. Moi, avec la Torah, j'ai la possibilité de me propulser vers le spirituel. Ah, ça c'est déjà une chance. Quand un homme va réfléchir à ça, il va dire, écoute, réfléchis. T'es un homme en chair et en os, tu vis comme tout le monde, tu vis comme un goy, il n'y a pas de raison que tu sois mieux que le goy. Pourtant, Dieu nous a donné une chance que nous, avec les Torah mitzvot, hop, on rentre dans une synagogue, en quelques minutes, on peut se sentir propulsé. Je dirais qu'on s'est shooté. Le problème, C'est une chance que Kadosh Baruch Hu nous donne. On ne réfléchit même pas à cette chance. Quand on réfléchit à cette chance, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'en vérité, on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. On doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Bon. Mais on a besoin encore de... On a besoin un peu mieux, d'accord ? On a besoin un peu mieux de réfléchir à ce concept-là. On a besoin de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Parce que, encore une fois, on va essayer d'expliquer ce qui nous manque ici. On va analyser ensemble ce qui nous manque. Pourquoi on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'on a expliqué ? Parce que, qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu me dis que Kadosh Baruch Hu, c'est un grand roi. Et ce grand roi, il a pris une personne défavorisée, il l'a amenée dans son palais. Dans cette image-là, tout était clair. Il y avait un roi, donc on a le repère du roi, on sait où il est le roi. Il y avait le palais, d'accord ? Donc le palais du roi, on sait où il est le palais du roi. Et il y avait la personne défavorisée, qui était dans la rue. Donc on a des repères. On a la personne qui est défavorisée, qui traîne dans la rue, le roi et son palais. C'est pour ça que quand je vois un changement de situation, je vois le roi qui prend la personne défavorisée, qui l'amène dans le palais. Je dis qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé ici. C'est pas normal ce qui s'est passé. Donc on a des repères. Bon. Tu as envie de me dire que c'est la même chose qui s'est passé pour nous. Nous, on était défavorisés, si tu veux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il nous a pris, il nous a sortis de là-bas, il nous a amenés dans son palais, il nous a donné la Torah, il nous fait sortir d'Égypte, il nous fait sortir de notre emprisonnement matériel. Tu suis ?
Mm-hmm.
Bon. Certes, mais le problème qu'on a ici, c'est quoi ? C'est que là, on n'a pas de repères. Quand, dans l'histoire, dans mon exemple de tout à l'heure, j'avais des repères. Je sais où est le palais, même le personne qui est défavorisé, même s'il ne rentre pas au palais, mais il sait où est le palais. Mm-hmm. Donc il a la possibilité de mesurer la chance qu'il a. Nous, on n'a pas de repères. Moi, je suis né. D'accord ? Et quand je suis né, on m'a appris depuis petit à faire des mitzvot. Et après, on me dit, tu sais, ces mitzvot-là, en vérité, c'est une chance que tu as. J'ai pas de repères pour comprendre que c'est une chance. On n'a pas de repères. Pourquoi on n'a pas de repères ? Parce que nous, on est né dans ce monde et on ne sait pas ce qui s'est passé avant. En d'autres termes, qu'est-ce qui nous manque ici ? Ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui nous manque ici, c'est la phase de création, comment le monde s'est créé. Pour nous montrer comment Dieu est très très grand et nous on est très petit, comment le roi est très très grand et comment nous on est très petit, et comment ce roi-là, il nous a pris. On sait au fond de nous, on nous l'a toujours appris, mais on n'a pas de repère. Donc puisqu'on n'a pas de repère, c'est pour ça qu'on a du mal à avoir un sentiment de reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu, puisque on a du mal à se conceptualiser, on ne peut pas conceptualiser Kadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que je veux dire ?
Mm-hmm.
Voilà. Donc ça c'est le problème qu'on a maintenant. Ce qu'on va essayer de faire dans ce chapitre, bien sûr, on ne pourra pas conceptualiser Kadosh Baruch Hu. Dans ce chapitre, ça va être très intéressant parce qu'à partir de maintenant, chapitre 48 et 49, on va expliquer des notions les plus profondes de la Kabbalah. Des notions très profondes de Kabbalah pour expliquer justement ce processus de la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé quand le monde s'est créé ? Comment ça s'est passé ? Et quand on va essayer de comprendre comment ça s'est passé, on va comprendre comment à la base, on n'a aucune raison d'être là. Comme normalement, un Kadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'on n'aura pas de raison d'être là. Donc on va essayer de donner des repères. Et quand on va donner des repères, c'est ça ce qui va nous permettre d'avancer. Tu comprends ce qu'on fait dans ce repère avec mon frère ? C'est-à-dire que le concept, on l'a compris. Le concept, on ne va pas le répéter, on l'a compris. C'est le roi qui a pris la personne défavorisée. Sauf que là, le problème, c'est que on a du mal à voir où est le palais, en quoi on est défavorisé. On n'a pas de repères. Donc on va essayer de développer ces repères dans le Pérec Memchet, dans le chapitre 48. D'accord ? C'est un long chapitre. Une page j'ai fait dans Tania. Un long chapitre. Voilà. Donc on va essayer de le développer. Il dit comme ça. Hine kasher idbonen amaskil. Il nous prévient la demande à Zaké, il nous dit comme ça. Lorsque celui qui va réfléchir, d'accord, va réfléchir. C'est une expression en hébreu. Quand quelqu'un il s'exprime comme ça, ça veut dire qu'il veut te prévenir que tu vas devoir réfléchir. Kasher idbonen amaskil. Lorsqu'il va réfléchir, amaskil, celui qui est intelligent. À quoi il va réfléchir ? Bigdoulat ensof baruch hu. Donc maintenant, on va commencer à poser des repères. Donc c'est quoi notre problème ici ? On essaye de s'imaginer comment Dieu est très grand. Tu me dis que moi je suis petit. Bon, peut-être, mais je suis petit par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Donc, il faut essayer de s'imaginer comment Dieu est très grand. Donc on va essayer de placer des repères. On va essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la grandeur de ensof baruch hu. Ensof baruch hu, c'est un terme qui est ramené un nombre infini de fois dans la Kabbalah. Littéralement, ça veut dire l'infini, ensof. Ensof, en hébreu, ça veut dire sans fin. En, il n'y a pas sauf fin. Baruch hu, qui soit béni. La grandeur de Dieu infini. Alors c'est un terme qu'on répète très souvent, Dieu infini, Dieu infini. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est infini. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est infini?
Infini, c'est le fait de ne pas pouvoir le définir déjà.
Définir,
non, infini, c'est-à-dire ne pas pouvoir le limiter.
Ah, c'est attention, ça. Tu
ouais,
vois.
Non, pas la même chose.
Pas la même chose. C'est un bon point ce que tu dis. Parce que il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas définir.
Non, c'est pas ça que vous voulez dire.
Non, mais
qu'on ne peut pas définir, c'est autre chose.
Voilà.
C'est aussi une autre notion.
C'est une notion.
Mais là, c'est pouvoir finalement mettre dans une entité. Quoi. On peut pas le...
D'accord. Donc Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas limité. Bon. Il n'est pas limité. Bon. Ça veut dire quoi, il n'est pas limité?
C'est-à-dire pas limité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être sur notre même champ de notre même référentiel, c'est ça ce que j'entends pour moi.
D'accord.
Parce que nous on a un référentiel qui est le temps, qui est le avant tout le temps.
C'est-à-dire quoi?
Est-ce que ça veut dire
que par exemple mon processeur il peut faire 20 choses à la fois, et le processeur de Dieu il peut faire 1 milliard de choses à la fois? C'est ça la différence?
C'est même pas le même processeur déjà.
Ah, non bien. Donc on va devoir développer. Justement, on va devoir mettre les repères. Alors, top. Ouais, ils sont revenus de New York.
Elle était sur son épouse aussi, elle?
Non.
Oui, elle était.
Bon. Donc on a... Où on est? Quelle heure? Ouais,
9h. Je l'ai pas vu encore.
Donc, on a expliqué... Tiens, on est à la page Samer Zaïd. Qu'est-ce qu'on a expliqué ici? On a dit que, à la suite de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, enfin les semaines précédentes, on a expliqué le concept que Akadosh Baruch Hu est très grand et nous sommes très petits. Et quand le roi fait rentrer la personne dans le palais, d'accord, la personne défavorisée, on doit se sentir favorisé. D'accord. On a expliqué que pourquoi on a un problème, tu nous suis Lionel, pourquoi on n'arrive pas à se sentir favorisé et à se sentir qu'on doit être reconnaissant à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on n'arrive pas? C'est très simple, on n'arrive pas. On a dit on n'arrive pas parce qu'on n'a pas de
repère.
Dans mon exemple tout à l'heure, c'était clair. Il y avait le roi, il y avait le palais, il y avait la personne défavorisée qui traînait dans la rue. Le roi, il est venu, il a pris la personne défavorisée,
voilà, on a conceptualisé,
il l'a mis dans le palais.
Tout ça.
Donc on a conceptualisé, on le voit. Le roi, il sait ce que c'est la rue, d'accord? Et la personne défavorisée sait ce que c'est le palais. Peut-être qu'il n'a jamais été, mais il sait que c'est une chance qu'on l'a fait rentrer au palais. Donc il y a des repères.
Mais comment on n'est pas... On n'est pas dans une continuité d'individu.
Voilà. Alors le problème, justement,
on n'est pas en continuité. Voilà.
Le problème qu'on a, c'est par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on n'a pas de repère. On sait que Dieu il est très grand, mais de quoi très grand? On sait qu'Akadosh, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu nous a favorisés. On te croit, c'est vrai, on croit. Depuis qu'on est petit, on nous le raconte. Mais pourquoi on a du mal à se sentir reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on n'a pas de repère. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va faire des repères. Comment on va se faire les repères? D'accord. Globalement, sur la Terre entière. Comment on va faire des repères? On va essayer de s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans la création du monde. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la création? Et avec ça, on va comprendre comment Dieu était très très grand et comment nous, à la base, comment nous, le résultat, on est très petit. Donc, on va essayer de mettre des repères. Ça va prendre du temps. D'accord? Ça va pas être facile. Mais on va mettre des repères. Et une fois qu'on aura des repères, ça sera beaucoup plus facile de se sentir petit face à Akadosh Baruch Hu. Parce que là, quand une personne réfléchit, il se sent petit à part à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il se sent petit? On me demande à quelqu'un, un juif standard, je lui dis pourquoi tu te sens petit face à Akadosh Baruch Hu? Il va dire parce que je vois des fois, Dieu a fait des miracles, Dieu a fait des trucs. Donc ça veut dire que je me sens petit par rapport à quoi? Je me sens petit par rapport au miracle.
Surtout
d'accord
petit par rapport,
d'accord
à, par rapport au monde,
par rapport au monde.
À mon histoire, par rapport
d'accord
à ce que je vais...
Eh bien,
le choix mortel.
Un sadique aussi, il sait faire des miracles. Alors un sadique, c'est Dieu? À tout de suite, tu le bloques. Donc là, tout de suite, là, l'exemple que je viens de vous amener, on voit qu'il n'y a pas de repère.
Il
te dit, on n'a jamais vu Dieu. Justement, non, mais c'est là. Comment on conceptualise? Le problème, c'est la conceptualisation. Comment on conceptualise? On n'a pas de repère. Donc pour essayer d'avoir des repères, on va devoir faire appel à la Kabbalah, pour que la Kabbalah nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand le monde s'est créé. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait à la base? Et qu'est-ce qu'il y a au résultat? Et comment... On est chanceux. Pourquoi on est chanceux? Alors, on a commencé à expliquer. On a dit Kasher itbonen amaskin bigdulat ensof baruch hu. Lorsque la personne va réfléchir, lorsque celui qui est intelligent va réfléchir, parce que comme on l'a dit, ça va pas être simple. Bigdulat Ensof Baruchu, dans la grandeur de Ensof Baruchu, de l'infini qui soit béni. Ensof. Alors, Dieu qui est infini, ça veut dire quoi infini? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ça veut dire quoi infini?
Il n'est pas limité, on
a dit. Ça veut dire, on a dit qu'il n'est pas limité. Bon, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas limité. Alors, encore une fois, ça veut dire quoi il n'est pas limité? On va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que moi, en une journée, d'accord, je peux produire, voilà, imaginons que je travaille dans une usine, moi en une journée, je peux produire 100 livres. Ça veut dire quoi que Kadosh Baruch Hu est illimité? Alors, on va essayer de conceptualiser, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas de concept.
Ouais.
D'accord?
Ouais.
Donc on va essayer de conceptualiser.
Si tu peux faire 1000 livres, c'est illimité encore.
D'accord, donc ça veut dire quoi justement? Ça veut dire quoi quand on dit qu'il est infini? Est-ce qu'on connaît quelque chose qui est infini?
Non, on le conceptualise même pas, c'est pareil. On se dit c'est infini, mais pour nous, c'est pas.
D'accord.
Ça dépasse notre imaginaire.
Ma question, c'est ça que je pose une question. Je dis, est-ce qu'on peut s'imaginer quelque chose qui est infini sur Terre?
On peut pas.
Rien. Même les choses les plus durables qui existent.
On peut essayer de se faire.
Alors voilà, la chose la plus durable qui peut exister, c'est les astres. Le soleil, par exemple. Et même le soleil, on sait très bien qu'au fur et à mesure des années.
Oui, il y a des étoiles qui s'éteignent.
Mais même le soleil, on va dire le soleil. Le soleil qui est depuis la création, on sait que le soleil n'est pas le même qu'à la création. Il y a des perditions, c'est sûr.
Moi qui sont mortes.
Quand?
C'était non, on n'a pas vu peut-être pas s'éteindre, mais on a vu des. On dit que ces étoiles, celle-là, elle est morte depuis tant de
temps. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne sait pas ce que c'est quelque chose qui est éternel, quelque chose qui est infini. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Même pour nous, tu veux dire, par exemple, quand on demande aux gens, on dit qu'est-ce que ça veut dire quand ma chair est revenue, on dit qu'on va vivre à l'infini. C'est-à-dire qu'on va vivre à l'infini. On ne peut pas s'imaginer. On sait qu'il y a des gens qui vivent 100 ans, qui vivent 120 ans, qui vivent 1000 ans, qui vivent 2000 ans, mais infini, ça veut dire que après chaque chiffre que tu mettras, il y aura toujours un autre chiffre. Ça s'arrêtera jamais. Bon. Alors, on va essayer d'expliquer. C'est une notion qui est très connue dans la Kabbalah, ça, le terme de Ensof Baruch Hu. Dieu est infini. Ça veut dire quoi, Dieu est infini? Kikishmo Kenhu. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est infini, d'accord? C'est pas un nom qu'on a pris comme ça, mais qui veut rien dire. C'est vraiment comme ça. Akadosh Baruch Hu est vraiment infini. C'est-à-dire quoi infini? En sof, il n'a pas de fin. Ve en ketz ve tachlit klal. Il n'y a pas de but et il n'y a pas de finalité. Le or ve chayut amit pachet imenu itbarer. À la lumière et à la vitalité qui émanent d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire comme ça. Tout ce qu'on connaît dans le monde a un but. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'a pas de but. Tout ce qui existe a un but. Donc qui dit qu'il y a un but, d'accord? Oui, même en français. Un but, ça veut dire quoi?
C'est une fin.
D'accord? Non, mais en français, quand on dit que j'ai un but, ça veut dire quoi? Un but, ça veut dire que j'ai une raison d'être. Mais en vérité, quand on analyse le mot but, ça veut dire quoi? Un but, en français, c'est quoi?
Un objectif.
C'est un objectif. Ça veut dire que toute chose sur Terre a un objectif. Ce qu'on appelle, donc, comme il dit ici, sauf, ça peut être une fin. Donc qui dit qu'il y a un objectif, donc ça veut dire qu'il y aura une fin,
fini, oui.
ça sera fini, il y a un moment où l'objectif sera fini,
atteint,
d'accord, l'objectif sera atteint, et il y a un moment où donc, on pourra dire que le but, tachlit, le but qu'on cherchait à obtenir, était atteint. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de but. La lumière qui est, quand on dit que la lumière, l'infini, Akadosh Baruch Hu est infini, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ça veut dire quoi infini? Janu Yad Morazaken, ça veut dire quoi infini? Ça veut dire que c'est une lumière qui n'a pas de but. C'est une émanation. Ça veut dire que on peut même pas essayer d'imaginer ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Je peux même pas essayer d'imaginer parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Dieu avait un but, d'accord? Il voulait créer le monde, il avait un but. Donc voilà, nous on va accomplir son but. Donc on cherche à comprendre. Et je te dis tout de suite, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Ensof, Akadosh Baruch Hu est appelé Ensof. Très souvent dans les ans, on l'appelle Ensof, infini. Ça veut dire quoi infini? Ça veut dire qu'il n'y a pas de finalité chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dit je te demande de faire un projet, tu l'as fait, c'est fini maintenant, alors on passe au prochain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un concept de finalité. Parce que qui dit finalité dit que c'est un projet qui a un début, qui a un milieu, qui a une fin. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de finalité. Il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. C'est de l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie. Et je vais vous dire plus que ça. En vérité, si on appelle ça de l'énergie, on appelle ça la lumière. Pourquoi on appelle ça la lumière? C'est la lumière qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle ça de la lumière? Pourquoi on appelle ça de la lumière? Parce que la lumière, c'est la chose la plus raffinée qu'on connaît sur la Terre. La lumière, ça se touche pas. La lumière, ça se touche pas. on peut.
La lumière sur l'obstacle, c'est infini aussi.
Très bien. Pas. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, non, c'est fini la lumière.
Un rayon lumineux, si tu mets pas d'obstacle, ça arrête pas.
Mais un rayon.
Sans croisement, enfin, n'importe quel mouvement.
Un rayon lumineux. Et... Un rayon lumineux. Si tu. Si je.
Tu mets un obstacle.
Si... Non, même, c'est un même obstacle. Il a une portée. Il peut pas aller sans fin.
Pour moi, si tu fais pas d'obstacle dedans.
Bah, sinon, cette lumière-là devrait éclairer toute la Terre.
C'est parce qu'elle se réfléchit quelque part qu'elle s'arrête.
Ah, si elle se réfléchissait pas, elle serait pas arrêtée?
Ouais. Pour un rayon lumineux, comme un son, du moment qu'il n'y a pas de. Ou un frottement, enfin un mouvement sans frottement.
Ah oui, bon, après tu veux me dire le frottement de l'air, le frottement de ce que tu veux, d'accord, oui, d'accord, c'est possible, d'accord, j'ai compris.
Mais la lumière, c'est peut-être justement, est le plus...
Alors, pourquoi on prend l'exemple de la lumière, ou bien de l'énergie, d'accord, parce que c'est la chose la plus raffinée qu'on connaît, c'est la chose la plus fine qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est pas une matière, on peut pas dire que la lumière, c'est une matière. D'accord. L'énergie aussi, l'énergie, c'est pas une matière. Quand je parle de l'énergie, on va quantifier de l'énergie. Mais est-ce que l'énergie, c'est une matière? C'est pas une matière.
C'est une réaction.
C'est une réaction, voilà. Donc, c'est un concept. Voilà, c'est un concept. Très bien. Ah, très très bien. Conséquence. Très bon, on va revenir tout de suite. Conséquence. Très très bon. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand on dit que Kadosh Baruch Hu est Akadosh Baruch Hu et Or En Sof, c'est une lumière infinie. Ça veut dire quoi, une lumière? On a pris le terme lumière parce que c'est la chose la plus raffinée qu'on connaît, la plus fine qu'on connaît. C'est une lumière qui est infinie. C'est-à-dire que nous, dans nos lumières, chaque chose a un but. Enfin, même le soleil, qui est la lumière par excellence, il a un but. C'est quoi le but du soleil? C'est quoi le but du soleil? C'est de réchauffer la planète, c'est d'éclairer les gens. D'accord? Le jour où le soleil n'aura plus ses buts, le jour où il n'y aura plus de planète, Akadosh Baruch Hu dira, fini soleil, il n'y a plus besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière qui est sans fin. On va expliquer, parce que c'est une notion qui est assez difficile à comprendre. Donc, vous avez dans les mots, Enket Vetachlit Klal, il n'y a pas de but et de finalité du tout. Les or vechayut amit pachet umenu itbarer à la lumière et à la vitalité qui émane d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Birtsono apashut umeyuchad bemauto veatsunto itbarer betachlit ayichud. C'est une simple volonté qui est unie dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire une simple volonté. Dire comme ça. Et ça, on peut trouver un exemple chez l'homme. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme un peu comme lui. Et chez l'homme, on peut trouver aussi des choses comme ça. Il y a des choses que l'homme, il fait parce qu'il a un but. Par exemple, pourquoi je vais travailler? D'accord? Pourquoi une personne va travailler? Parce qu'il a un but, il doit gagner de l'argent. Il doit gagner de l'argent, ou bien il doit servir à quelque chose, ou bien il veut se sentir actif. D'accord? Pourquoi une personne va se marier?
On va avoir des enfants,
parce qu'il a un besoin, parce qu'il a besoin de vivre, techniquement, etc. Tout ce qu'on veut. D'accord? Chaque chose qu'on fait dans le monde, la majorité des choses, il y a une raison. Donc, qui dit qu'il y a une raison, il y a un début, il y a un milieu, et il peut y avoir une fin. On est d'accord? La vie même, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Mais chez l'homme, des fois, ce qu'on va retrouver, et c'est surtout chez l'enfant qu'on va retrouver ça, on va retrouver que des fois, on a envie de quelque chose sans but. Il n'y a pas de raison. Chez les enfants, on voit ça. Des fois, un enfant, il peut vouloir très fort quelque chose. D'accord? Tu lui demandes, tu lui dis, mais pourquoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
Il ne sait pas.
Il veut quelque chose. Des fois, c'est pas logique. Et peut-être que l'enfant, certainement que l'enfant comprend que c'est pas logique. Et il veut. Des fois, chez les adultes, c'est plus rare chez les adultes, parce que chez les adultes, il y a la raison qui nous rappelle à chaque fois. Je lui dis, attends, tu le veux, mais même si tu veux, attends, ça va coûter de l'argent, ta. La logique, elle te remet tout de suite à la surface. D'accord? Mais, même chez l'adulte, des fois, ça arrive qu'on veut quelque chose. Je veux. Je dis, mais pourquoi tu veux? Je veux. Mais pourquoi tu veux? On va t'expliquer que c'est pas logique, que ça coûte trop cher, que c'est pas normal, que... Tu vas comprendre. Je veux quand même. J'aime ça, je veux ça. D'accord? Alors, on va te demander c'est quoi ton but? Il n'y a pas de but. C'est comme ça. J'aime, je veux. Il y a des choses comme ça. Il y a très peu de choses, mais il y a des choses que l'homme veut. Il veut, mais il ne sait pas pourquoi. Très peu de choses. D'accord? C'est quoi ces choses-là? C'est des choses qui n'ont pas de but. Qui n'ont ni début, ni milieu, ni fin. Ça, c'est pas comme un argument que... C'est pas comme quelque chose que j'ai un but. Par exemple, quelqu'un, il va au travail. Il va au travail parce qu'il a un but. C'est quoi son but? C'est qu'il doit gagner de l'argent. Donc si un jour, par exemple, il peut pas aller au travail, sa femme veut dire, écoute, tu vas au travail pour gagner de l'argent, mais aujourd'hui tu aurais gagné tant et tant, mais je te demande de rester à la maison parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de ça et ça. Donc l'homme, comment elle va raisonner? Comment on va raisonner? On va dire, écoute, tu as un but, ton but c'est de gagner tant, donc je pense que par rapport à ce but-là, il y a quelque chose de plus intéressant. Tu comprends? Donc on peut discuter. Mais quand une personne veut quelque chose, tu peux pas discuter avec lui. Parce que même si tu vas l'expliquer que c'est pas logique ce qu'il veut, il le veut. C'est comme les enfants. On ne peut pas discuter avec un enfant. Tu peux le forcer à ne pas le faire. C'est la seule chose qu'on peut faire. Quand un enfant il veut vraiment quelque chose, tu ne peux pas lui expliquer. Il n'y a pas d'explication.
C'est un caprice.
D'accord? Mais on dit que chez les enfants, en vérité, c'est un caprice qui... Parce que chez l'enfant, pourquoi c'est comme ça chez l'enfant? Parce que chez l'enfant, le cerveau n'est pas encore développé. Comme il n'est pas encore développé, donc qu'est-ce qui ressort à la surface? Ses sentiments et sa volonté. Et ça, il a depuis la naissance. Depuis la naissance, il a sa nature. Après, l'adulte, avec le temps, il va s'habituer à ce que le cerveau va couvrir ça. C'est-à-dire, il sait qu'il a une nature, et je vais m'habituer à ce que ma nature ne soit pas visible. C'est ça ce qu'on fait en vérité. En vérité, on est tous des grands enfants. On s'est habitué à ne pas montrer à l'extérieur nos sentiments. Mais en vérité, on a ce concept en nous, des fois, de volonté, des fois qu'on veut quelque chose. Donc, encore une fois, c'est quoi le concept d'une volonté, une vraie volonté, comme dans le terme qui dit ici, ratson à pashut, une simple volonté. C'est quelque chose qui n'a pas de définition, qui ne peut pas se définir. Je ne peux pas se définir. Et je vais vous dire plus que ça. C'est possible que je veux quelque chose, on va me le donner, et ça ne va pas assouvir ma soif. J'en veux encore. Je sais pas, je veux. C'est chez les enfants, on retrouve ça très très fort. Et des fois, un enfant, il peut vouloir quelque chose sans fin. Tu lui donnes, il veut. Je dis, mais attends, ça y est, pourquoi tu veux? Pour faire un kiff. Le kiff, tu l'as déjà eu. Non, et pas, il ne peut pas réfléchir.
La création du monde, c'est ça, c'est un ratat de café,
pas seulement la création du monde. Akadosh Baruch Hu est comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est un ratson pashut, c'est une simple volonté. Il n'y a pas de début, de milieu et de fin. Donc là déjà, on commence à comprendre comment on peut pas conceptualiser Akadosh Baruch Hu. Il réfléchit pas comme nous. Il n'est pas du tout conçu comme nous. Nous, même si des fois on a des volontés comme ça.
Même qu'il soit conçu déjà.
Quand, voilà, on va dire la conception. D'accord, ça veut dire, on va essayer de conceptualiser au moins, de faire un concept, de rentrer en concept. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde, comme tu as dit tout à l'heure. Nous, nos concepts, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un but, il y a des fois où le but n'est pas atteint, des fois on va devoir changer de direction pour que le but soit atteint. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est une volonté. Une simple volonté. Une volonté qui n'a pas de fin, qui est constante. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Dans les mots. Donc, Birtsono a Pashut, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on va comprendre à la suite. Birtsono a Pashut, ou Meyuchad Maoto, Vatsunto Idbarer, Betachlit Aichud. C'est une volonté qui est donc, on a dit, qui est liée à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Qui est liée à Kadosh Baruch Hu, Betachlit Aichud, c'est dans la plus grande union. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'on dit que, comment on peut retrouver la vraie nature d'un homme? C'est dans les choses qu'il a envie. C'est dans ça qu'on retrouve la vraie nature d'un homme. Si tu me dis, je retrouve un homme dans sa manière, comment il travaille par exemple, comment il s'occupe de sa famille, comment il s'occupe de ses enfants, on te dit, ça c'est pas la vraie nature d'un homme. Pourquoi? Parce que ça c'est issu de la culture dans laquelle il est né. Il est né dans une culture, donc on l'a habitué, c'est une tradition, donc il s'est habitué qu'il faut travailler, qu'il faut s'occuper de ses enfants, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. C'est pas dans ça qu'on voit la vraie essence de l'homme. Où on voit la vraie essence de l'homme, ce qui est lié à son essence, c'est quand on voit Retsono à Pashut. C'est quand on voit les choses qu'il a envie, d'accord, sans raison. Il veut. Encore une fois, on retrouve ça chez les enfants. Les adultes, on le cache ça, mais on peut le retrouver aussi chez les adultes.
Comment?
D'accord. Il y a certains cas, dans certains cas, il y a des fois des choses qu'on sait qu'on veut, qu'on ne sait pas pourquoi. D'accord.
Oui, par exemple. Influence après.
Oui. C'est ça le problème, c'est que nous aujourd'hui...
Après, tu sais plus ce que tu veux. Tu as eu des influences extérieures.
Non, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est une volonté. Par exemple, on dit un exemple d'une volonté qu'on a, qui est constante quand on est adulte, c'est la volonté de vivre. La volonté de vivre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette volonté de vivre? Bon. Alors, la volonté de vivre, on n'y réfléchit jamais. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas de raison d'y réfléchir. Mais quand une personne est en danger... On dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'instinct de survie. L'instinct de...
On parle d'instinct.
L'instinct de conservation, ils appellent ça aussi. D'accord? C'est quoi cet instinct? Il est dans la galère, le gars. Il n'a aucune raison de vivre. C'est-à-dire que s'il va se mettre à analyser la situation, D'accord? Il dit, écoute, le business n'est pas bon, il faut lâcher. Logiquement, des fois, il y a des gens qui arrivent à une situation que il n'y a pas de raison.
Par cette notion d'accord même d'instinct, c'est-à-dire que finalement, c'est dans la nature,
alors, l'exemple, animal de la chose. L'exemple, quoi, malheureusement, qu'on en aide, c'est ce qui s'est passé à la Shoah. Qu'est-ce qui s'est passé à la Shoah, hein? Comment ils ont tué la majorité des gens? Dans les chambres à gaz. Bon. Comment ça marche le gaz? D'accord? Comment ça marche le gaz? On sait très bien que l'air frais, il monte toujours en haut. D'accord? Dans le gaz, en tout cas, c'est comme ça. Donc, comment ça se passait? Ce qui se passait, c'était très simple. C'est que, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettaient du gaz. D'accord? Ils mettaient du gaz dans les chambres à gaz. Mais, pas d'un coup, petit à petit. Et ce qui se passait à Hachem Yishmor, Dieu préserve, c'est que plus les gens, ils sentaient qu'ils étaient en train de s'asphyxier, et plus ils voulaient chercher de l'air frais en haut. Donc, du coup, ils se montaient les uns sur les autres. Et les gens qui ont eu des témoignages, qui nous ont raconté après Dieu préserve ce qui s'est passé, ils racontaient que quand on ouvrait les chambres, c'est des juifs, parce que malheureusement, ils mettaient des juifs aussi pour s'occuper de ça, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait les gens entassés, les uns sur les autres. Et donc, bien entendu, on peut s'imaginer que les plus faibles étaient en bas, et les plus forts étaient en haut. Alors, pourquoi ils se battaient? Ils savaient très bien que c'était fini. Pourquoi ils se battaient?
C'est de survie.
D'accord? C'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut même pas réfléchir. C'est à ce moment-là, le cerveau ne réfléchit plus. Si le cerveau réfléchit, il dit, mais attends, de toutes les façons, je vais partir, je vais mettre tout le monde en train de partir. À quoi ça sert? Dans les faits, on voit que c'est pas passé comme ça. On voit qu'il y a eu un instinct de survie.
Et c'est pareil, instinct, c'est oui. Pareil pour des personnes qui sont en réanimation ou c'est arrivé
oui,
qu'à les fins de phase.
Bien sûr, oui. Ils ont une volonté finale, de vivre.
Et même jusqu'au dernier souffle.
Ils veulent vivre. Voilà. C'est ce qu'on appelle, d'accord, le ratson nihyot, la volonté de vivre. Et cette volonté, c'est une ratson apachout, c'est une simple volonté. C'est une volonté qui n'a pas de fin, qui n'a pas de but. Pourquoi je veux vivre? Il n'y a pas de but. La preuve qu'il n'y a pas de but, c'est que des fois, le but n'est pas atteint. Des fois, il n'y a pas de raison que j'ai envie de vivre. Et pourtant, je veux vivre. Ça veut dire que c'est une volonté qui dépasse l'entendement. Ça, c'est chez l'homme, hein, en général. D'accord? Chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même manière. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a une énergie quand on dit qu'il y a une énergie qui émane d'Akadosh Baruch Hu, pour créer l'homme, pour créer le monde, pour créer la nature, c'est pas une énergie avec un but. C'est une volonté. C'est pas une volonté qui a un but. C'est pas que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, il dit bon, j'ai un plan, on va voir, il y a un but, si le but n'est pas atteint, je casse tout. Non. Il va expliquer ici que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une volonté qu'il avait de créer le monde. Qui dit volonté, dit que, des fois ça s'explique pas, ça peut pas s'expliquer. On va développer un peu plus. Ve'ilou, aïta a madrigot, mi madriga le madriga bederer ila ve'aloul. Si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde, là on va comprendre tout ce que ça veut dire, d'accord? Mi madriga le madriga, de niveau en niveau, bederer ila ve'aloul, dans un système de cause à effet. Lo aya aolamaze, nivraklal kemoshuwata biprinat gvul vetachlit. Le monde n'aurait pas été créé comme il est actuellement, de manière limitée. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Ça, c'est des concepts, parmi les concepts les plus compliqués de la Kabbalah, et ce qui nous paraît compliqué ici, en vérité, c'est très simple par rapport au vrai concept. Bon. On va parler d'autre chose. Vous allez voir comment ça va rejoindre tout de suite. On va parler du concept de cause et effet. D'accord? On appelle ça aussi des fois conséquence. Et
la cause et la conséquence.
La cause et la conséquence. D'accord? On va dire, en général, on appelle cause et effet. Voilà, en français, on dit cause et effet. Tout ce qu'il y a dans le système d'aujourd'hui, le système du monde d'aujourd'hui, d'accord? Tout ce qui existe est dans un système de cause et effet. On va essayer de réfléchir. Vous allez voir que tout ce qui est autour de nous marche comme ça. Par exemple, j'ai ici un livre. D'accord? Dans ce livre, de quoi il est composé ce livre? Ce livre, il est composé de papier, d'accord, d'encre, et quelque chose qui a été écrit dessus. Donc on va analyser point par point. On va prendre le papier. Quelle est la cause du papier? Ça veut dire, l'effet, c'est le papier, c'est le résultat. Quelle est la cause du papier? D'où vient le papier? D'où ça vient? Comment on fait du papier?
La pâte à papier avec le
bois. La pâte à papier, elle vient du bois. D'où vient le bois?
De la terre.
De la terre. D'accord? Vous allez voir que chaque chose où on va avancer, il y aura toujours une cause qui a produit un effet. Pareil, il y a un texte qui est écrit ici. Ce texte-là est écrit par quelqu'un, qui l'a appris de quelqu'un d'autre, etc.
L'effet papillon.
D'accord? On appelle ça l'effet papillon?
Oui, je ne sais plus quel truc. L'effet papillon d'un endroit.
Ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, ça ne s'arrêtera jamais. Cause à effet, ça ne s'arrêtera jamais. Bon. Je vais vous dire plus que ça. D'accord? S'il y avait pas le, si le monde n'était pas créé dans le système de cause à effet, les médecins n'auraient pas de travail aujourd'hui. Les physiciens n'auraient pas de travail. Les chercheurs n'auraient pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font les chercheurs? C'est quoi le boulot des chercheurs? On a un effet devant nous. Qui arrive, ou qui va arriver. Un effet, voilà. On a un effet qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher cet effet-là. On va essayer de comprendre quelle est la cause de cet effet. Et quand on va comprendre quelle est la cause de cet effet, on va être capable de développer un vaccin contre le virus. Tant qu'on n'a pas compris la cause, d'accord, on ne peut pas contrer l'effet. Et tout le monde, c'est comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'on va essayer, qu'est-ce qu'ils vont faire les chercheurs? Quand même aujourd'hui, ça marche comme ça encore.
Tu annules l'effet. Ce que tu fais, c'est juste annuler l'effet. La cause,
oui.
Tu pourrais faire contre.
Comment je fais pour annuler l'effet?
Tu trouves un contre-effet.
Donc il faut comprendre, d'accord? Il faut comprendre où est la cause.
Pas annuler la cause. La cause
très bien. Alors, encore une fois, donc il y a plusieurs manières. Il y a des vaccins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annuler l'effet. C'est-à-dire, tu mets une lumière, je t'amène une lumière plus forte. Là, je te mets par terre. Mais les vrais chercheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher la cause de l'effet. D'où est venu le problème? Même dans une entreprise, quand on veut régler un problème.
Ouais.
Tu as un concurrent qui est en train de, tu vois, qui est en train de te prendre des parts de marché. Tu peux venir et mettre et injecter beaucoup d'argent et l'écraser. Tu vas l'écraser peut-être. Mais tu as juste écrasé un effet par un autre effet. Tu n'as pas vraiment vu la cause. Si tu analyses la cause, tu vas dire, attends, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Comment ça se fait qu'il m'a pris des parts de marché? Il y a une cause pour cet effet-là. Quand tu vas analyser la cause, c'est là que tu es capable de contrer le problème. Tout ce qu'il y a dans le monde autour de nous est dans un système de cause à effet. C'est comme ça. Cause, effet. Et quand on réfléchit, on voit qu'en vérité, par exemple, je donne encore un autre exemple. La Torah nous, quand la Torah nous raconte l'histoire de Yosef, qu'on va étudier dans quelques mois, dans quelques semaines, pardon, l'histoire de Yosef. Comment Yosef a tzadik qui a sauvé l'Égypte. L'Égypte était dans la famille, Yosef avait été intelligent, il avait mis de la récolte de côté, et grâce à ça, il a pu sauver l'Égypte. Bon. On va essayer de s'imaginer, si l'histoire de Yosef se serait passée aujourd'hui, quels auraient été les grands titres des journaux? Quels auraient été les grands titres des journaux sur Yosef?
Sauve le...
On aurait dit, un grand homme sauve le monde.
Ah oui.
Très bien. Comment la Torah nous raconte ça? Comment la Torah nous raconte ça? La Torah nous raconte que Yosef est en prison. En prison. Quand Yosef était en prison, pourquoi il est en prison? Il y avait une cause aussi. Mais bon, je démarre d'ici. D'accord? Pourquoi il était en prison? Parce qu'il était chez Potiphar. Pourquoi il était chez Potiphar? Parce qu'il était vendu. Pourquoi il était vendu? Parce que ses frères lui en voulaient. Pourquoi ses frères lui en voulaient? Parce que lui, il embêtait. Bon, ça s'arrête jamais. Mais je mets mon focus sur ça, là. Il est en prison. C'est ce que la Torah nous raconte. Il est en prison. Qu'est-ce qui se passe quand il est en prison? Un beau matin, il se lève. Et il voit deux prisonniers qui sont là. Et qui font la tête. Bon. Je leur demande pourquoi vous faites la tête. Vous avez déjà vu un prisonnier demander à l'autre pourquoi tu fais la tête? C'est normal, je fais la tête, je suis en prison, qu'est-ce que tu veux? Tu sais d'où je viens, moi, tu sais qui je suis, j'étais le cuisinier du roi.
C'est une race particulière ce jour-là.
D'accord? Oui, mais attends. Qu'est-ce que tu me demandes comment je vais? Tu sais d'où je viens, moi, j'étais le cuisinier du roi. Tu me demandes pourquoi je suis pas bien? Je suis en prison, je suis enfermé ici comme un chien. Qu'est-ce que cette question? Qu'est-ce qu'il dit, Youssef? Youssef vient avec un grand sourire. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez pas bien? Donc ils lui répondent. On a fait un rêve, etc. Il leur raconte le rêve, il leur explique le rêve. Et qu'est-ce que nous dit la Torah, juste après? Vayei miketch nataim yamim. La Torah, juste après, donc, le rêve que Youssef, tel que Youssef l'a prédit, ça s'est accompli comme ça. Ils sont sortis de prison, les deux, sauf, mais pas Youssef. 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve, et il n'arrive pas à le résoudre. Quand? Il n'arrive pas à l'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand? Celui qui est resté en vie, donc le maître chanson, Il va venir voir Paro, il va dire, écoute, je me rappelle quand j'étais en prison. Cause. D'accord. Je me rappelle quand j'étais en prison, j'avais un rêve que je n'arrivais pas à résoudre, et Yosef l'a résolu. Et là, et la suite, après, la Torah nous raconte que Yosef, on a fait sortir Yosef de prison, Yosef est sorti de, donc, de prison, il a résolu le rêve, il a expliqué le rêve, comment il a expliqué le rêve? Il a dit, cette année de famine, cette année de truc, etc. Et après, la Torah nous raconte comment le rêve s'est accompli. Donc vous voyez comment les grands titres qui auraient titré seraient venus, qu'ils auraient dit un grand homme a sauvé l'humanité. D'accord ? D'accord ? Tu comprends ? Un grand homme, c'était avec nous Yves. Un grand homme a sauvé l'humanité. En vérité, ils sont arrêtés à une seule cause. À la cause, à la dernière cause, c'est que Youssef était un grand homme. Mais avant que Youssef était un grand homme, il y a une histoire qui s'est passée. Il y a eu un rêve que Paro a fait. Et que Paro est parti chercher Youssef pour résoudre ce rêve. Pourquoi Paro est parti chercher Youssef pour résoudre ce rêve? Parce que 2 ans plus tôt, il y a une histoire qui... Non, cause à effet. Ça s'arrête jamais. Très bien. Si le monde avait été créé...
Mais c'est, ça, c'est la théorie des, du Big Bang. Hein, le...
Alors justement, voilà, on y arrive. D'accord. Si le monde avait été créé dans un système de cause à effet, le monde n'aurait jamais pu exister.
Sans lien de cause à effet.
D'accord. Non.
Non, si, qu'il
avait... si le monde avait été créé dans un système de cause à effet, c'est-à-dire que disons que Dieu il est très très grand, et après il a créé un petit truc, un peu tatatata, et petit à petit c'est petit à petit
descendu.
D'accord, le domino, voilà. D'accord. C'est-à-dire que Dieu était très très grand. Ensuite il a, voilà, je redonnais l'exemple d'un palais. Dieu était très très grand, il a nommé un ministre, ce ministre a nommé un ministre plus petit, jusqu'à qu'on arrive au citoyen. D'accord. Ça c'est un système de cause à effet aussi. C'est un système de cause à effet. C'est que la cause, la grande cause du pays, c'est le roi. Le roi va avoir des ministres, d'accord, donc
sur les faits.
Et après, comme ça, ça va descendre, jusqu'à que le citoyen, bah, lui, c'est le dernier de la chaîne, mais après, le citoyen aussi, il va faire tourner. Parce que le citoyen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner la machine. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui... Bon, d'accord. Si on avait dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans un système de cause à effet, ça veut dire que Dieu était très très grand, et que nous sommes très petits. Vous comprenez le système de cause à effet? C'est ce qu'on appelle le système des madrigotes, des niveaux. Voilà, maintenant vous allez comprendre. Chaque fois on dit les niveaux. C'est quoi c'est une histoire de niveau? On dit le olamot, ishtalchelut. Alors je vous explique ce que c'est ishtalchelut. Ishtalchelut, d'accord, en hébreu, ça vient du mot shalchelet. Shalchelet en hébreu, c'est une chaîne. Qu'est-ce que vous remarquez dans une chaîne? D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque dans une chaîne? Dans une chaîne, on remarque tout de suite que les deux maillons sont attachés. Les deux maillons, ils sont attachés. Pas seulement qu'ils sont attachés, on voit tout de suite comment les deux maillons sont attachés, comment un maillon va être la cause du maillon suivant. C'est-à-dire c'est lui qui va lui permettre de tenir. S'il n'était pas là, il n'aurait pas tenu. C'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu quand il crée le monde. Sauf que, tous les niveaux qu'on explique dans la Kabbalah, tous les niveaux qu'on explique dans la Kabbalah, des Olamot, comme on a dit, Atsilut, Bria, Yetira, Asiya, voilà. Allez, on va donner un autre exemple encore, parce que c'est important à comprendre cette notion qui est de Kabbalah. On a dit que le monde, tiens, sur 4, le monde, d'accord, a été créé en 4 étapes. Atsilut, Bria, Yetira, Asiya. Bon, c'est quoi Atsilut, Bria, Yetira, Asiya? On a dit que c'est progressivement comment le spirituel s'est transformé en matériel. Atsilut, c'est zéro matériel. Bria, c'est quand on a créé le concept, donc c'est déjà créer un concept, donc c'est déjà une matérialisation. Yetira, c'est quand on a formé la chose, donc c'est encore plus matérialisation. Et Asiya, c'est quand c'est complètement construit. Donc là, on a un vrai lien de cause à effet. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, on ne pouvait pas aller de l'étape 1 à l'étape 4 directement. Ça aurait sauté. C'est comme le maillon, d'accord? Pour passer du maillon 1 au maillon 4, il faut passer par le maillon 2 et le maillon 3. On est d'accord? C'est la même manière. Sauf que la seule erreur qu'on a ici, c'est que ça, hein, c'est une fois que Kadosh Baruch Hu a déjà détaché le monde. C'est un peu compliqué ce que j'explique ici. C'est-à-dire comme ça. Ce qui va expliquer à Edmour Hazaken ici, c'est que si Kadosh Baruch Hu avait créé le monde dans un système de cause à effet,
on en aurait une première action, le reste n'aurait été que des conséquences.
C'est pas ça, c'est que on vient de dire que Kadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il est infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de but. Ça n'existe pas un but. Donc qui dit but, il n'y a pas de cause et effet. Vous comprenez? C'est là que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai expliqué deux notions jusqu'à présent. On va voir tout de suite la corrélation entre les deux. Première notion qu'on a expliquée, c'est la notion de ensof, de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire infini? On a dit que quelque chose d'infini, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de but. Comme une volonté, comme la volonté de vivre. Il n'y a pas de but. Je veux vivre parce que je veux vivre, c'est tout. Très bien. Donc on a dit que c'est quelque chose... Oui, donc on a expliqué le concept de ce qui est infini. Maintenant, c'est quoi il avait à Loul? Il avait à Loul, on a dit que c'est un système de cause à effet. Qui dit cause à effet dit que la cause a un but, d'accord, et l'effet aussi a un but. Vous suivez?
La cause a un but.
Par exemple, vous avez un exemple. Voilà, je reprends mon exemple du papier. Mais je répéterai un peu, je répéterai pas la semaine prochaine, en deux semaines, on remettra ça bien, mais bon. Je vais expliquer. Je reprends.
Hein? Première couche.
Oui, première couche. Non, première couche. Mais c'est une notion de Kabbalah, une fois qu'on les a compris, après c'est acquis. Je reprends mon exemple du papier. Mm-hmm. D'accord? Ce papier, d'où il vient? C'est quoi sa cause?
La cause, c'est le papier. Parce qu'on a abattu des arbres.
De l'arbre, ça vient de l'arbre. D'accord? Donc maintenant on va se mettre. Donc, si on a mis la perspective côté papier, on a dit, ben, le papier, grâce à qui il existe? Grâce à l'arbre. Sans l'arbre, je ne serais pas là. Maintenant, on va se mettre du côté de l'arbre. On va demander, monsieur arbre, à quoi tu sers? Si tu fais là? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire, d'abord, je suis là pour rafraîchir la planète. Je suis là pour... je peux donner éventuellement des fruits. Et même si je peux plus donner de fruits, même si je suis devenu sec, on peut faire du papier avec moi. Donc, mon but, c'est quoi? C'est aussi de faire du papier. Oui? Aussi de faire du papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Si j'ai mis quand j'ai mis mon focus ici du côté de l'arbre, ben j'ai vu que l'arbre a un but. La cause a un but. L'arbre qui était la cause avait un but. Il a un but. Il y a une raison pour qu'il est créé dans cette terre. Il n'y a rien dans cette terre qui n'est créé pour rien. Rien. D'accord? Même comme l'histoire que l'Agmara raconte avec David Ameller. Une fois David Ameller, il a vu... C'est quoi l'histoire? Il a vu une araignée, un moustique. Je crois qu'il a vu une araignée. Je crois que c'était une araignée. Je me rappelle plus. Il avait un moustique ou une araignée qui le dérangeait. Casser les pieds comme ça, juste passer comme ça. Il tournait vers lui, il dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et comment Dieu l'a répondu?
Il a fait rentrer, je crois. Dans...
Hein? Alors c'était une araignée. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, il a montré comment un jour, une fois, il était, je crois, hein, je suis pas sûr de l'histoire,
dans la caverne.
Une fois, hein, vous savez que David, à ses tout débuts, était poursuivi. Il était poursuivi par Shaoul. Parce que David devait devenir le nouveau roi, et Shaoul ne le faisait pas, il était le roi. Donc quand il était poursuivi, à un certain moment, ils sont arrivés devant une impasse que David se rendait compte que Shaoul était en train de le rattraper. Il avait une machinerie beaucoup mieux que lui, mais il était en train de le rattraper. Et à un moment, il voit une grotte. Il rentre dans la grotte. Et il est persuadé que Shaoul, quand il va passer, il va rentrer dans la grotte. Donc il s'est caché. Qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu comme miracle? Il a amené des tas d'araignées, d'accord, qui ont fait en quelques secondes donc une toile. Et quand Shaoul est passé à côté, il voulait rentrer. Il y a ce généreux qui a dit, roi, d'accord, votre majesté, s'il y a des telles toiles d'araignées ici, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est rentré ici, ça fait des années. Donc ils ne sont pas rentrés. Et là, David a eu sa réponse. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde qui est créé pour rien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je reprends mon système, je reprends mon concept. Si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde dans un système de cause à effet, le monde n'aurait jamais pu exister, puisque qui dit cause à effet, dit que l'effet doit être comme la cause. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que si dans la cause, à la base, Akadosh Baruch Hu n'est pas fini, il n'a pas de but, l'effet ne peut pas avoir de but non plus. C'est un autre exemple, parce que c'est une notion qui est compliquée à expliquer. Tiens, je vous donne encore un autre exemple de cause à effet. Peut-être que celui-là sera le bon. Ah, peut-être avec tout ça, on va comprendre. Non, mais c'est... Pourquoi je vous donne tous ces exemples? Parce que quand j'ai étudié le sujet, préparé ce cours, j'ai vu tous ces exemples. C'est avec tous ces exemples, ça va nous permettre de comprendre. Là, un autre exemple. Un maître et un élève. On a encore un exemple ici de cause et d'effet. Le maître, c'est la cause. Et l'élève, c'est l'effet. le maître, un maître qui est en train d'enseigner, il enseigne quelque chose à ses élèves. D'accord ? Il va parler. Il va enseigner quelque chose à ses élèves. Donc le maître, c'est la cause, et les élèves, c'est l'effet. C'est quoi l'effet de l'élève ? Ben, c'est ce qui va rentrer ou pas dans le cerveau des élèves. Ça, c'est l'effet. On est d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette histoire de cause et d'effet ? On voit qu'il y a forcément un rapport entre la cause et l'effet. On est obligé d'avoir un lien entre le maître et l'élève. Il faut qu'ils soient les deux sur la même longueur d'onde. Il faut qu'ils parlent la même langue, par exemple. Parce que sinon, s'ils ne parlent pas la même langue, la cause ne pourra jamais produire un effet. Donc maintenant, imaginez-vous un maître et un élève qui ne parlent pas la même langue. Donc on a ici une cause potentielle, on a ici un effet potentiel. Est-ce que la cause va donner l'effet ? Je répète.
Oui, la cause va donner l'effet.
Je répète. Cause et effet. J'ai un maître qui est ici, voilà, il y a un maître qui veut venir aux universités pour enseigner un cours à des élèves. Donc, cause, effet. C'est quoi la cause ? C'est le fait que le maître va parler, les mots qui vont sortir de la bouche du maître, du professeur. C'est quoi l'effet ? L'effet, c'est l'intelligence qui va rentrer dans la tête des élèves. D'accord ? La connaissance. Donc, cause, effet. C'est-à-dire que si je veux demander à l'élève, je veux dire d'où tu as appris ça, c'est un effet ce que tu as dans ta tête là. C'est un effet, on voit que tu as des connaissances. D'où tu connais ces connaissances ? Il va te dire, la cause de ces connaissances, c'est mon maître. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça, mais en vérité, c'est comme ça que ça se passe.
Mais pour montrer quoi ?
Alors, pour montrer quoi ? Pour montrer que comment ça a pu se passer, ce lien cause à effet. C'est parce que le maître et l'élève étaient sur la même longueur d'onde. Le maître et l'élève, par exemple, parlaient la même langue. Donc, ils ont pu communiquer. Mais imaginez-vous que le maître, il parle qu'en espagnol, et l'élève, il parle qu'en français. Le maître, il est là pour enseigner, et il va enseigner. L'élève, il est là pour écouter, et il va écouter. Est-ce que l'élève va comprendre ce que va dire le maître ? Il est parti, là, je crois.
Il ne va pas comprendre.
Hein ? Il va pas comprendre.
Non, je suis
content. Donc, ça veut dire que la cause n'a pas produit d'effet, dans ce cas-là. Il y avait une cause qui était prête à donner. Il y avait un effet qui était prêt à recevoir. Mais la cause n'a pas produit l'effet. Ça veut dire que pour qu'une cause produise un effet, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que j'ai parlé de la chaîne.
Quand la chaîne, il a
pas fini à gaucher. Attends, j'arrive. Si Akadosh Baruch Hu, si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde dans un système de cause à effet, le monde n'aurait jamais pu exister tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ? Puisqu'on a expliqué que qui dit cause à effet dit que la cause, l'effet doit être comme la cause, doit être de la même nature que la cause. Et si la nature d'Akadosh Baruch Hu à la base
ou est un cran inférieur.
Voilà, oui, un cran inférieur, mais il y a un rapport.
Il y a une relation de cause à effet.
Voilà, une relation de cause à effet.
Voilà.
Si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu est infini, d'accord, et qu'il a créé le monde dans un système de cause à effet, l'effet doit obligatoirement être lui aussi infini. De l'infini ne peut jamais créer du fini.
Oui.
Dans un système de cause à effet.
Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, juste, quelle heure il est ? Ouais, je vais arrêter ici parce que après, je pense que j'ai assez forcé pour aujourd'hui. On va expliquer juste quelle est la différence entre l'infini et du fini. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure. D'accord ? On va prendre un exemple. Vous allez prendre... On va essayer de comparer 1 par rapport à 1 milliard. Est-ce que ça peut se comparer ? 1 par rapport à 1 milliard. Est-ce que 1 vaut quelque chose par rapport à 1 milliard ? Oui. Pourquoi il vaut quelque chose ? Parce que si j'avais imaginons que de ce 1 milliard, j'aurais enlevé 1.
J'aurais pas 1 milliard.
J'aurais plus 1 milliard.
J'aurais 999 millions, 999 mille.
Adenaire, regardez. Par exemple, vous prenez un milliardaire. Vous lui dites 1 euro pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est insignifiant. 100 euros pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. 1000 euros. C'est rien. 10 000 euros. Ah, là, on commence à parler. D'accord ? Très bien. Maintenant, je vais lui poser la question. Donc, a priori, celui qui entend ça, il dit « Ah, tu vois, pour lui, 1 euro, ça vaut rien. » Pas du tout. Parce que pour arriver à 10 000 euros, il faut 10 000 fois 1 euro. Et si j'enlève un seul euro de ces 10 000 euros, j'ai 9 999. Ça veut dire que 1 par rapport à 1 milliard, c'est vrai que 1, c'est beaucoup moins qu'un milliard, mais il y a, donc encore une fois, cause à effet. D'accord ? Cause à effet. 1 milliard fois 1 euro vont faire 1 milliard d'euros. cause à effet. Maintenant, si on essaierait de comparer un par rapport à l'infini, ou encore mieux, un milliard par rapport à l'infini, est-ce qu'on a un repère ici? Non, parce que l'infini, on peut pas, ça s'arrêtera jamais, parce que le chiffre le plus grand que les ordinateurs pourront arriver, on dira toujours infini, c'est un plus que ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Partout où tu iras, toujours je te dirai infini, c'est encore plus que ça. Ce qu'il veut nous dire ici par rapport à... Pourquoi j'explique ça? Pour dire que l'infini et le fini ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Que même si vous avez quelqu'un qui est milliardaire et tout ce que vous voulez, d'accord, ça ne pourra jamais se comparer à quelqu'un qui a de l'argent à l'infini. Parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que celui qui a de l'argent à l'infini, il pourra avoir un infini de fois de ce qu'il a, ce milliardaire. Donc à la limite, par rapport à celui qui... ça n'existe pas. Mais par rapport à l'infini, 1, 0 et 1 milliard, c'est la même chose. Puisque je vous bouffe tous, je peux faire autant de fois vous tous, autant de fois que je veux. Vous valez rien tous. Ça fait rien, ça vaut rien. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infini et le fini sont complètement, deux mondes complètement différents. Et puisque j'ai expliqué que dans un système de cause à effet, la cause et l'effet doivent être sur la même longueur d'onde. Et que forcément, l'effet aura les mêmes caractéristiques, d'accord? C'est-à-dire aura les caractéristiques semblables à l'effet. Pardon, à la cause. Sinon, il y a un problème. Sinon, c'est pas cause à effet. Donc, si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans un système de cause à effet, le monde n'aura pas pu exister puisque notre monde est fini. De l'infini ne peut jamais créer du fini en mode cause à effet. Donc, déjà, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde dans cause à effet. Hein, dans un système de cause à effet. Et alors? Très bien, pour l'instant, il n'y a pas de et alors. Nous, on cherche, rappelez-vous, le but de notre chapitre ici, c'est de mettre des repères. Donc, on va essayer d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc on a procédé par élimination. Tout d'abord on a dit, sache que Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde comme un artiste qui crée un objet. Parce qu'un artiste qui a créé un objet, encore une fois, cause à effet. L'artiste qui a créé un objet, voilà. L'artiste qui a créé cette nappe. La machine. D'accord ?
Il a réfléchi.
D'accord ? Et la nappe, c'est quoi la nappe ? C'est devenu quoi la nappe ? D'accord, la nappe qu'il a créée, enfin le tableau qu'il a créé, ouais, je sais pas, il n'y a pas de tableau ici, voilà. Voilà, ici, là, il y en a une menorah. L'artiste qui crée cette menorah, là. D'accord ? Il a réfléchi. Comment il voulait faire son projet. Il a fait un projet. D'accord ? Le projet était à l'image de l'artiste. C'est-à-dire qu'après, un connaisseur, Chaim ? Partiment. Un connaisseur, d'accord ?
Non, il est là.
Il est parti ? Un connaisseur va être capable de te dire, ah, cette pièce d'art, elle a été faite par telle personne. Pourquoi? Il va être capable de dire ça. Parce qu'il y a un rapport entre l'effet, qui est le produit, et la cause. Si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans un système de cause à effet, l'effet aurait dû être obligatoirement infini. Puisque ce n'est pas le cas, donc on sait que c'est pas comme ça que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors comment il a créé le monde? Alors,
et pourquoi il n'aurait pas pu le créer sur deux niveaux? Dans ce cas-là, il peut lui-même être infini ou autre, mais définir...
Très bien, tu as raison, c'est une très bonne question, dans ce cas-là, c'est pas un mode de cause à effet.
Non, mais pas...
Très bien.
Qui a dit que c'était forcément un mode de cause à effet?
Pourquoi Daniel Morazakel nous dit ça? Pour essayer de nous faire comprendre, rappelez-vous, c'est quoi le but de ce chapitre? Le but de ce chapitre, c'est de nous montrer...
Oh là, tu as enlevé l'Ensof.
Voilà, justement. Non, mais c'est quoi le but de ce chapitre? Pourquoi on a parlé de ça ici? C'est de comprendre comment le roi est très grand et nous on est très petit.
C'est ça, c'est se rappeler.
Donc on a dit que nous, le problème qu'on a...
On essaye de conceptualiser,
au moins la distance, conceptualiser la distance, conceptualiser le problème. On n'arrive pas à conceptualiser. Mm-hmm. D'accord? On a dit que notre problème, c'est qu'on n'a pas de repère. Et là, il t'explique pourquoi on n'a pas de repère. Pourquoi j'ai pas de repère? D'accord? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le système comment il a créé le monde, c'est pas comme le système comment nous on crée les choses.
Oui, c'est ça. On peut pas matérialiser avec des emplacements.
Tu comprends? Parce que, par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, même l'exemple qu'a donné Nadine Morazaken, avec le roi qui a un palais et le défavorisé qui a une défavorisé qui est dans la rue. Ben quelque part, la rue, c'est l'effet du palais. C'est l'effet du roi. Mais il y a un lien entre les deux. Donc forcément, ils se connaissent. Chacun connaît l'autre. Le roi connaît le défavorisé connaît le roi, ils se connaissent. Je dis pas qu'ils sont au même niveau, mais ils se connaissent. Il y a un rapport entre les deux. Il y a un lien. Si tu me dis que Kadosh Baruch Hu avait créé le monde, un système de cause à effet, comme nous on connaît, dans ce cas-là, le monde n'aurait jamais pu être fini. Il aurait été constamment infini. Pourquoi le Morazaké nous dit ça? Il nous dit pour te dire, sache que tu as monté, tu n'arriveras jamais à comprendre qui est Kadosh Baruch Hu. Donc là, déjà, on a compris qu'il n'est pas. Bon, on a toujours pas expliqué comment Kadosh Baruch Hu est grand. Ça, on expliquera dans 2 semaines de Ratachem. En tout cas, je veux juste résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, voilà, on peut dire le titre du cours d'aujourd'hui, c'est cause à effet. C'est ça, voilà, on s'est basé sur ça. On a expliqué c'est quoi le concept de cause, de la cause et de l'effet, comment tout ce qu'il y a dans le monde autour de nous aujourd'hui est dans un système de cause et d'effet. On a expliqué que quand qui dit cause à effet dit que l'effet doit avoir des caractéristiques communes avec la cause, c'est clair. C'est comme ça qu'on va faire des vaccins, c'est comme ça que tout le monde est comme ça. C'est comme ça que je reconnais un artiste dans une peinture, c'est tout. C'est qu'il y a un rapport entre la cause et l'effet, obligatoirement. Et avec ça, on a dit que quand on dit que Kadosh Baruch Hu est infini, ensof, infini, il n'a pas de finalité, comme la volonté de quelqu'un, comme la simple volonté d'une personne de vie, par exemple. Si tu me dis qu'il n'a pas de finalité, donc si tu me dis que ce Dieu qui n'a pas de finalité a créé un monde, ce monde aurait dû être obligatoirement un monde infini. Puisque le monde qui est ici est un monde fini, donc ça veut dire qu'il y a une autre méthode. Alors laquelle? Comment il a créé le monde? C'est là qu'on va arriver, dans 2 semaines, à expliquer la méthode du Tzimtzoum. Ça, on expliquera dans 2 semaines.
Ce qui est difficile, c'est que je comprends l'idée, le message, mais à côté de ça, il nous embrouille un peu, il nous embrouille les pieds. Quand il dit que Dieu nous a fait à sa pierre tonneau, quand on dit que Dieu nous a fait à son image,
oui.
C'est quand même plusieurs choses qui nous font dire qu'il y a quand même un rapport entre nous, la création, et Dieu.
Elle a été posée une simple question.
Pourquoi il nous rajoute ça si on est censé comprendre qu'il y a justement aucun lien?
Justement.
Pourquoi nous embrouiller comme ça?
Non, ça veut dire... Il y a un lien, mais jusqu'à un certain point.
Il y a un lien.
Oui.
Le fait qu'il y ait ne soit qu'un lien...
C'est pour ça que je vais vous donner l'exemple de Hatzilut, Bria et Tira Asiya. Par exemple, moi, j'ai un rapport avec Hatzilut, parce que je viens d'Hatzilut. D'accord? Mais Hatzilut, qui c'est qui l'a créé? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Or Ensof. Or Ensof n'a rien à voir avec Hatzilut. Ça veut dire comme ça. Pour arriver au monde de Hatzilut, entre Or Ensof et Hatzilut, il y a dû avoir un clash entre les deux. Un Big Bang, si tu veux. Il doit y avoir un truc entre les deux. Parce que, en cause à effet, ça n'aurait jamais existé. Ça ne peut pas, parce que la cause, qui dit cause à effet, d'ailleurs, c'est même la théorie du Big Bang. Il y a toujours une cause et un effet. Et l'effet doit être toujours en rapport avec la cause. Il peut être plus... D'accord, bah après, bien sûr, que plus on va aller, plus l'effet il sera grand, il n'y a pas de problème, mais il doit avoir un lien. Or, puisqu'on voit ici que de l'infini a créé du fini, ça veut dire que ce n'est pas un système de cause à effet, sinon ce n'est pas possible. Avec ça, il veut nous montrer comment en vérité Akadosh Baruch Hu, même si on dit que Akadosh Baruch Hu nous a fait à son image, etc. Mais tout ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau. Mais il y a un niveau par rapport auquel tout ça ne pourra pas s'appliquer. Bon, on va expliquer ça avec Hachem en 2 semaines, parce que c'est des notions très compliquées.
Exact.
C'est pas trop compliqué?
Si, c'est compliqué, mais bon, on essaie
de...
Si, j'ai compris à peu près l'idée, la façon dont... la façon effectivement d'essayer de conceptualiser quelque chose comme juste manière où on ne peut pas l'avoir à...
C'est conceptualisé, quelque chose qui parle de fin n'est pas conceptualisable.
Peut-être on va essayer.
Oui.
Peut-être la prochaine fois on va essayer de faire d'utiliser le tableau, peut-être ça aidera. Je sais pas, bon.
L'idée on la perçoit. Disons que même sans comprendre, on perçoit le...
Le concept du cause.
On a l'impression qu'on a besoin de le démontrer. Pourquoi essayer de le démontrer? On a besoin de le démontrer. C'est quelque chose, c'est un acquis. C'est quelque chose.
Oui.
Ça passe le départ.
Bonne question. C'est pour ça, c'est la question qu'on a posée. La question que tu poses, c'est pourquoi on a besoin de le démontrer si c'est un acquis. C'est la bonne question. La réponse, encore une fois, est là. C'est que nous, le but qu'on cherche à obtenir, on dit, comment ça se fait que, naturellement, on ne sent pas qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu? Si Dieu il s'occupe tellement de nous, normalement, réciproquement, on doit l'aimer. C'est pas normal qu'on l'aime pas. Pas mal qu'on n'a pas de sentiment d'amour. Donc, si on n'a pas de sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu, dans mon exemple du roi, obligatoirement, celui qui est défavorisé va se sentir favorisé, il va aimer le roi. C'est obligé. C'est une nature. Alors, pourquoi ça n'arrive pas? Si ça n'arrive pas, d'accord, c'est parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas été à même d'apprécier le roi. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, quand je demande à quelqu'un, je dis, c'est quoi Dieu pour toi? Il va dire, Dieu, il est très fort. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont très forts dans le monde. Mais il est encore plus fort qu'eux. Bon, alors il est plus fort qu'eux. Il n'y a pas de repère. C'est-à-dire que le repère pour s'imaginer Dieu, on va dire, voilà, c'est le ciel, c'est l'infini. Mais c'est pas un repère, ça. Pourquoi c'est pas un repère? Parce que c'est quelque chose de fini. Tu comprends? Donc j'ai du mal à développer un sentiment d'amour envers quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai du mal à développer? Parce que je sais pas ce que c'est. Alors, je ne dis pas qu'on va expliquer nous qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. On peut pas expliquer ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais au moins, ce qu'on va expliquer, on va expliquer quel a été le processus, comment on a été créé. D'où on est venu et où on est arrivé. Comment on a été créé. Et là, avec ça, on va être à même d'apprécier comment Akadosh Baruch Hu, en vérité, ne doit rien du tout. Et c'est nous qu'on lui doit quelque chose. Ça va prendre du temps. Parce qu'on va devoir expliquer longuement ce qui s'est passé. Pas simplement Dieu est grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que dès qu'on a commencé à attaquer le sujet, on a dit, ça peut pas être un système de cause à effet. Parce que si c'est un système de cause à effet, on aurait dû être des gens finis. Infinis, pardon. Puisqu'on est des gens finis, donc c'est pas un système de cause à effet. Donc là déjà on est perdu maintenant. On est encore pire qu'au début du cours.
Si on peut dire qu'on est infini dans le sens où on se reproduit.
Oui, mais c'est pas de l'infini, ça.
On est infini. Cause à effet, c'est pareil.
On est infini, oui, seconde.
Cause à effet, c'est pareil.
On est infini, oui. Encore une fois. On est peut-être infini. On est peut-être infini dans la race, d'accord ? Mais la matière de notre corps n'est pas infinie. Nos pensées ne sont pas infinies. Or, de l'infini ne peut créer que du fini. Que de l'infini, pardon. Puisque la cause et l'effet, obligatoirement, ils doivent être sur la même longueur d'onde. Or, l'infini et le fini ne sont pas sur la même longueur d'onde. Encore une fois, je répète ce que j'ai expliqué parce que c'est un point important à comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, tu vas aller chez un milliardaire. D'accord, je pense que c'est un bon exemple. Tu vas aller chez un milliardaire. Tu vas lui dire, qu'est-ce que c'est un euro pour vous? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Rien. 100 euros, rien. 1000 euros, bon, rien. 10 000 euros, bon, on commence à parler. D'accord, c'est un euro pour nous. 10 000 euros, bon, on commence à parler. Mais en vérité, quand lui t'a dit que 1 euro, c'est rien pour lui, c'est faux. Parce que les 10 000 euros sont composés de plusieurs 1 euro. Donc en vérité, 1 euro, ça a une valeur pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle du fini. D'accord? De l'infini, c'est quand je te dis qu'il y a un million, un milliard, ça vaut rien, puisque de toutes les façons, c'est infini. On peut même pas comprendre. Notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre ça. Donc, de l'infini ne peut pas produire du fini. 10 000 fois un euro, ça peut produire 10 000 euros. D'accord? Mais une fois infini, ça ne peut pas produire 10 000 euros, parce que c'est pas la même nature. Enfin, je vais expliquer, ça veut dire comme ça. C'est pas quand on te dit par exemple que voilà. Imaginons par exemple, je te dis, j'ai ici un paquet de mouchoirs en face de moi. J'ai ici un paquet de mouchoirs en face de moi. Je veux dire qu'il y a une personne qui a 10 millions de paquets de mouchoirs. Mais c'est toujours 10 millions de un paquet de mouchoirs. Qu'est-ce que ça voudrait dire avoir un paquet de mouchoirs infini? Ça veut dire que c'est pas qu'il a autant qu'il veut de paquets de mouchoirs, c'est pas ça. C'est qu'il a un seul paquet de mouchoirs, mais l'essence de ce paquet de mouchoirs est une essence infinie. Notre cerveau ne peut pas comprendre ça. On ne parle pas d'un infini ici quantitatif. On parle d'un infini qualitatif. Dans la qualité. Et ça, l'homme ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc, vous voyez tout de suite que dès qu'on commence à parler, on voit tout de suite qu'on ne comprend pas ça. On n'est pas conçu pour comprendre ça. Donc, puisque la cause et l'effet ont obligatoirement un rapport, il y a un rapport entre la cause et l'effet, on a expliqué, d'accord. Dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, l'infini va obligatoirement créer de l'infini. Il peut pas créer du fini. Il va créer un infini qui est dans un autre style que lui, peut-être. Comme dans l'histoire de cause à effet. Mais il peut pas créer un infini, il peut pas créer du fini. C'est pas possible. Bon, on repassera une couche du verre de semaine.
Moi, je trouve que c'est le limité de dire qu'il peut pas créer du fini, justement.
On n'est pas en train de dire ce que Dieu peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. On est en train de parler de la méthode. Là, simplement, il veut nous dire que la méthode, comment Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est pas dans la même méthode.
Pourquoi ne pas faire créer aussi
On n'a pas dit que Akadosh Baruch Hu nous a pas créé, il nous a créé Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, ça. Mais, ce qu'on veut dire ici, c'est que la méthode que Akadosh Baruch Hu a utilisée pour nous créer, c'est pas la méthode standard avec laquelle on crée des choses, on fait avancer les choses dans ce monde.
Oui, mais en même temps, les notions qu'il a mis dans le monde, c'est des notions...
Créées.
C'est des notions définies. C'est-à-dire qu'on a une valeur temps, une valeur jour, on a une valeur Shabbat. on a des
oui.
notions qui sont
non, mais la notion de cause à effet, c'est une notion qui existe même au Gan Eden. C'est une notion qui existe partout, ça.
D'accord.
C'est la manière même de réfléchir de l'homme.
Ben oui, c'est ça.
Cause-effet. Tout ce que je fais, il y aura un effet. D'accord. Et si je viens des parents qui avaient des parents qui avaient des parents.
Voilà.
Même au Gan Eden.
D'accord.
Tout, par exemple, une bonne action qu'ils ont fait, ça a un effet.
Au Gan Eden.
Oui. Bah, c'est ça qui prend. Au Gan Eden, on profite des bonnes actions qu'on a fait sur Terre.
D'accord.
Donc voilà, donc ils sont en train de profiter de l'effet d'une cause. Donc effet-cause, toujours. Celui qui n'a pas eu la cause en bas, il ne pourra pas avoir l'effet en haut. Donc, encore une fois, cause-effet. Certainement. C'est qu'au Gan Eden, par exemple, il devait étudier entre Rabbanim, d'accord, entre Neshamot, et pareil, c'est qu'il y a un système de cause à effet. C'est que deux Neshamot qui sont pas conçus les mêmes ne peuvent pas se comprendre. Cause-effet. Ça ne s'arrêtera jamais, ça, cause à effet. Là, ce qu'on veut te dire, c'est que le système de cause à effet est un système créé par Akadosh Baruch Hu, mais ce système-là, on ne peut pas dire que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous a créé. Que c'est comme ça qu'il a fait 0-1. Parce que dans ce cas-là, si dans le système de cause à effet, c'est comme dans le système du Big Bang, il faut toujours que l'effet ait un rapport avec la cause. L'effet, il faut toujours que quand on voit l'effet, on puisse remarquer que l'effet provient de la cause. Or, de l'infini ne pourra jamais créer du fini. C'est pas possible. C'est impossible. Ça ne pourra jamais créer du fini. Donc, il y a une autre méthode avec laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde, qui est la méthode qu'on appelle dans le Zohar la méthode du Tzimtzoum. Ça, c'est une méthode qu'on développera avec Bezrat Hashem.
Tzimtzoum, littéralement.
Tzimtzoum, compression.
Quand tu dis Tzimtzoum Alev, c'est
un mot. Tzimtzoum Alev, ouais. Tzimtzoum. Tzimtzoum, c'est la compression. Ça, on va expliquer, parce que c'est une des plus grandes notions de Kabbalah, et en vérité, ça va expliquer beaucoup de choses. Ça va expliquer le lien que l'homme il a avec le Kadosh Baruch Hu, ça va expliquer des tas de choses. On va comprendre.
Peut-être qu'on arrivera mieux à comprendre une fois qu'on aura une vision plus...
Certainement.
Et encore.
D'accord. Mais c'est bon, je vous dis, c'est des notions, ça fait partie des notions les plus compliquées de Kabbalah. Le Tzimtzoum, mais vous allez voir pourquoi c'est très important de comprendre ça. Parce que là, tout de suite, on s'est rendu compte que même si on a expliqué qu'on devrait aimer Akadosh Baruch Hu parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte et parce qu'il nous a permis de sortir de notre emprisonnement, enfin du matériel par les mitzvot, mais on voit que on a du mal à appréhender ou à apprécier Akadosh Baruch Hu, d'accord, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc on a du mal à se situer par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi aimer Akadosh Baruch Hu? Je ne sais pas ce que c'est. Tu me dis aimer un homme, je sais ce que c'est. Tu me dis aimer une glace, je sais ce que c'est. Je sais, parce que j'ai des repères. On n'a aucun repère, donc on a du mal à aimer Akadosh Baruch Hu. Pour être capable d'aimer Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre comment Akadosh Baruch Hu nous a créés. Et là, on aura beaucoup plus de facilité à faire des repères. Donc on continuera et on repassera dessus Bezrat Hashem dans deux semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas cours. La semaine prochaine, c'est une tête qui se lève. Donc le cours est déplacé.
Et pourquoi ils font une semaine à l'avance? Hein? Je me disais, mais pourquoi ils font une semaine à l'avance?
Je sais pas, dans ma tête quand je tourne du kinus et je crois que c'était... Voilà, ça reste ici.